J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici. Je m'appelle Madeleine Pont et c'est moi qui vais vous accompagner tout au long de ces deux journées de travail. C'est la première fois que le GRAP organise un colloque sur un thème qui rassemble des spécialistes. Nous avons plutôt l'habitude d'organiser des conférences tout public. Et cet été, nous avons organisé un congrès sur la dépression, en savoir plus, une étape dans la vie, point d'interrogation. Et c'était plus de 520 personnes qui étaient à notre congrès. Ce qui fait que je dois vous dire, la semaine passée, quand j'ai vu 30 inscriptions à cette journée d'études, je me suis sérieusement posé la question de savoir si on allait maintenir ce colloque ou pas. Mais voyons l'intérêt de ce travail, parce qu'en plus des 30 inscriptions la semaine passée, il y avait plus de 30 personnes qui nous demandaient le compte-rendu du colloque. Donc 30 personnes plus 30, plus encore une semaine où des inscriptions allaient venir, nous avons décidé de maintenir cette rencontre et nous avons 102 personnes qui sont inscrites pour ce congrès finalement. Alors, voilà, maintenant, cette réunion a lieu, c'est grâce aussi à l'active collaboration de Bruno Gravier, qui interviendra dans cette journée, et Jean-Philippe Duflon, qui m'ont donné un sérieux coup de main pour mettre sur pied cette journée. Donc, je les remercie infiniment. Sans l'intérêt aussi et l'engagement bénévole de tous les intervenants pour la cause des patients psychiques, nous ne serions pas là aujourd'hui et je leur adresse ma plus profonde reconnaissance. J'adresse aussi mes remerciements à M. Roland, chef de la logistique du secteur centre et ses services d'intendance. Si la prison et la folie sont des thèmes porteurs dans la presse, par leur aspect scandale, nous sommes là pour réfléchir aux solutions aujourd'hui. Et la presse a joué le jeu. Plus de 10 journaux romans ont publié un important article sur ce colloque et sur ce thème « Patients psychiques en prison ». Des représentants de la presse sont là aussi aujourd'hui et vont donner écho de ce colloque. Monsieur le Président du Conseil d'État, Claude Ruet, m'a dit qu'il essayerait de faire un saut en s'échappant à la séance de la table ronde qu'il devrait clore ses travaux aujourd'hui, semble-t-il. Et je salue cette constructive collaboration avec son département et les services pénitentiaires, tout comme la collaboration que nous avons établie depuis longtemps avec le département de la santé et de la prévoyance sociale. L'étiquette de la folie n'est pas facile à porter. Celle de la délinquance non plus, le cumul encore moins. Je félicite le courage et le sens de la responsabilité reconquise des membres du GRAP qui ont accepté de témoigner lors de ces deux journées. Ces témoignages sont le résultat d'un climat de solidarité et d'amitié que mes collaborateurs ont su créer et je salue tout particulièrement le travail de mon mari Luc Pont et de Patricia Simène, coordinatrice du GRAP Yverdon. 5 membres du GRAP liront les 7 témoignages des personnes malades psychiques et délinquantes. Pour ces personnes délinquantes, violentes, l'hôpital psychiatrique n'est pas un lieu adéquat. C'est en tout cas notre avis au GRAP. Quant à elles, la prison, en tant que telle, n'est pas un lieu de soins. Le but de ce colloque est de remettre sur le tapis cette problématique question en abordant des sujets comme les critères de responsabilité limitée, la protection de la société, le traitement psychiatrique des délinquants, la durée de la peine, de la mesure et d'autres sujets encore. Sur le plan pratique, je dois vous dire que les actes du congrès sont compris dans le prix. Vous recevrez donc les actes écrits. Par contre, les personnes qui souhaitent avoir les cassettes doivent les commander au secrétariat. Le repas de midi est, lui, pas compris. Vous pouvez le prendre dans le restaurant qui est là à côté. Il vous faudrait acheter un bon de repas au secrétariat au moment de la pause, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Les intervenants au congrès, ainsi que leurs accompagnants époux et épouses, sont attendus ce soir au souper au Grappe, au restaurant du Grappe, le Grain de Sel, où le Grappe Cabaret animera la soirée. Je remercie les intervenants du congrès de bien vouloir signaler leur participation à ce souper pour que l'équipe du Grain de Sel puisse se préparer. Je vous souhaite à tous un bon congrès, une bonne journée. Et j'ai le plaisir maintenant de passer la parole à M. Borja. Vous savez, vous ne savez pas, que le Grappe a à cœur de modifier l'image de la psychiatrie dans le public, l'image de la folie. Et ce n'est pas pour des prunes qu'on a choisi ce riz pour cette journée. C'est parce que justement, on aimerait que des gens viennent à ce riz, non pas seulement pour des moments difficiles, douloureux, des crises, mais aussi pour réfléchir ensemble à des problèmes de société et établir un partenariat entre les différentes personnes, les personnes concernées par la maladie, leurs proches, les professionnels et les gens du tout public. C'est pourquoi, depuis cette année, nous avons élaboré un programme de conférences tout public, ici à SRI. Je sais que ça pose des problèmes d'organisation, mais M. Borja l'a toujours accepté, cette intrusion du grand public sur le site de SRI. Je passe la parole à M. Borja, qui va nous souhaiter aussi la bienvenue.
Je voudrais dire que ce n'est pas seulement quelque chose que nous tolérons, l'intrusion, c'est quelque chose que nous souhaitons. Et nous sommes donc très heureux de vous accueillir tous. Et nous sommes toujours particulièrement heureux des collaborations possibles avec le Grappe, qui, pour nous, mais pas seulement pour nous, pour l'ensemble de la psychiatrie vaudoise, est devenu un partenaire absolument incontournable et dont nous saluons les nombreuses initiatives, notamment les initiatives qui se répètent sur notre site, que ce soit les collaborations, le petit magasin, ce genre d'initiatives. Je voudrais donc souligner aujourd'hui que le thème qui a été choisi pour cette rencontre est un thème à la fois délicat, bien sûr, mais d'une très grande importance. Délicat parce que, bien sûr, il associe violence et maladie psychiatrique. Or, dans les faits, le malade psychique, le malade psychiatrique n'est pas particulièrement violent ou agressif, bien que, certainement, comme vous l'avez souligné, Mme Pont, les reportages et les choses à saveur de scandale mettent en exergue souvent certains faits où, malheureusement, des associations entre la maladie mentale et la violence existent. Un autre aspect de ce thème, qui illustre la délicatesse de ce thème, c'est qu'en fait, il fait ressortir que pour le malade psychiatrique, c'est la violence qui peut être une complication, qui peut l'amener à avoir des difficultés, qui peut le conduire en prison. Or, il est certain que la violence est ce qui va retenir notre attention, mais c'est loin d'être la seule raison qui risque d'amener des gens qui ont des difficultés à vivre énormes, qui sont certains de nos patients, c'est loin d'être la seule raison qui puisse les amener en prison. L'importance de ce thème, par ailleurs, je pense, justifie amplement que nous l'abordions d'une façon aussi multidisciplinaire que ce sera le cas aujourd'hui. Je voudrais souligner, je crois, que cette importance, au fil des dernières années, est accrue. Accrue pour deux raisons. D'abord, à cause de l'importance de la toxicomanie. Je pense que nous ne sommes pas tout à fait au clair. Est-ce que la toxicomanie est un phénomène en augmentation? Je crois que c'est l'impression que nous avons. Certains contestent, mais enfin, c'est un phénomène de plus en plus visible et qui requiert de plus en plus notre attention. Or, il est clair que la toxicomanie, en association avec la maladie psychiatrique, est un facteur de complication, est un facteur qui s'associe pour générer la violence plus que tout autre. La toxicomanie associée à la maladie mentale aggrave la pathologie, la rend réfractaire au traitement et marginalise encore davantage nos patients. Conduit un peu à ce concept dont on parle de plus en plus de double, sinon des fois on devrait évoquer même de triple diagnostic, pour lequel on doit reconnaître qu'on a très peu de ressources, et c'est certainement une des questions qu'on devrait aborder ouvertement, les ressources pour les doubles diagnostics, c'est-à-dire ce genre de situation où s'associe toxicomanie avec maladie psychique ou psychiatrique. Un autre facteur qui accroît, à mon avis, l'importance du thème traité aujourd'hui est celui du changement de la psychiatrie au fil des années. En effet, si on regarde le fonctionnement de l'asile, de l'ancien asile, l'ancien asile ajoutait à sa fonction psychiatrique asilaire qui a caractérisé longtemps une époque, une fonction évidente de contrôle social. C'était un lieu de réclusion à long terme où on pouvait isoler certains patients ou certains individus socialement déviants, loin de la ville, avec des murs épais et des portes fermées. L'évolution de la psychiatrie change considérablement le tableau. L'hôpital psychiatrique moderne est axé sur le traitement et de plus en plus axé sur le court terme. Les hospitalisations sont brèves, les traitements ambulatoires le sont également. C'est un lieu ouvert, ainsi assuré, il n'y a plus d'unité fermée. C'est un lieu qui a été englobé par la ville, il n'est plus isolé à la campagne, il a été rejoint par la ville au fil des années. Et c'est de plus en plus, et fort heureusement, un hôpital comme les autres. Ce qui est une évolution, je pense, saluée et extrêmement favorable pour la très grande majorité des patients. Mais il faut constater qu'en suivant cela, une évolution qui est mondiale et qui est, je pense, fort heureuse, ici comme ailleurs, l'hôpital psychiatrique devient de moins en moins approprié pour une minorité de patients, minorité bruyante, minorité souvent trop visible et qui a besoin, en plus d'un traitement psychiatrique, d'un certain contrôle social à long terme. Et ce constat-là, où l'hôpital peut de moins en moins répondre à ce besoin de la société, pose la question du lieu approprié pour cette clientèle. Je pense que vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est une des questions qui sera à débattre aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'on a vu se développer ici, comme ailleurs. Et je salue la présence d'un collègue québécois qui va nous parler d'expérience québécoise et canadienne. Le développement d'institutions consacrées à la psychiatrie légale, pénitentiaire, comme on l'appelle ici, avec le service qui prend de plus en plus d'importance et qui est dirigé par Bruno Gravier. Et cette situation aussi nous force souvent, malgré nous et fort malheureusement, à recourir aux instances de la société qui ont comme fonction le contrôle social, notamment le réseau pénitentiaire comme tel, et la police pour faire cette fonction de contrôle social que l'hôpital psychiatrique, qui a connu de profondes mutations, ne peut plus faire. On se pose véritablement des questions et je crois qu'on a beaucoup de pain sur la table. Alors à tous, bienvenue et bon congrès.
Code pénal. Monsieur le Président du tribunal, qu'est-ce que vous allez nous en dire? J'ai le plaisir de donner la parole maintenant à Monsieur Fontala, qui va aborder cette question. Monsieur Fontala est très engagé pour défendre les questions des personnes qui sont un peu marginalisées dans notre société. Je suis trompée. C'est M. Toriel. Je passais directement au vif du sujet. J'étais déjà au tribunal. Alors, M. Éric Toriel, directeur des institutions avec qui nous avons l'habitude de collaborer, et je suis désolée d'avoir sauté à pieds joints sur son intervention, que je suis sûre nous apportera beaucoup au niveau de la réflexion personnelle qu'il conduit sur ce sujet. Alors, M. Toriel, avec toutes mes excuses encore,
Merci Madame Pont de me passer, de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Je dois dire que si elle a hésité à me donner la parole tout à l'heure, même en m'éclipsant finalement du programme, et si elle a hésité aussi à un moment, à la semaine dernière, à savoir si elle allait organiser ce congrès finalement, enfin l'organiser, elle l'avait fait, mais si elle allait le mettre en œuvre, vu le nombre restreint encore la semaine dernière d'inscriptions, moi-même j'ai aussi eu mes hésitations. J'ai eu des hésitations à répondre positivement à sa demande de préparer une intervention aujourd'hui, parce que effectivement c'est un séminaire très spécialisé. Mais bon, voilà, je suis là, et si je suis là, c'est parce que dans le cadre de ces deux journées sur le patient psychique en prison, j'ai souhaité vous apporter quelques réflexions sur l'évolution de notre société depuis 1800 quant à l'utilisation de l'hôpital psychiatrique comme une certaine forme de prison. Ça va un peu dans le droit fil de ce que le professeur Borja, des quelques réflexions que le professeur Borja a esquissées tout à l'heure. Moi-même, j'ai approfondi cette réflexion que je voulais partager avec vous. En effet, il me semble que ce sera une bonne toile de fond à tous les propos plus spécifiques sur les aspects pénaux et carcéraux qui vont suivre. Il faut rappeler d'emblée que la folie et la maladie mentale ont inquiété, voire angoissé de tout temps, les malades eux-mêmes, bien sûr, mais aussi et surtout leurs familles, leurs proches et toute la communauté. Il y a peu d'histoires pour rire sur les tuberculeux, sur les cancéreux, sur les diabétiques, ou sur les sidéens. Mais sur les malades mentaux, elles sont légion. Le rire est une bonne protection contre la peur. Peur de ce que l'on ne comprend pas. Peur de ce que l'on ne contrôle pas. Peur d'une maladie qui s'exprime parfois bruyamment ou dans la violence. Peur de ce que l'on ne sait pas encore guérir. Dans un article de Michael Steck, on trouve la réflexion suivante. Nous pouvons nous sentir agressés ou démunis face au comportement d'un schizophrène ou d'une personne en plein délire. Et nous mettons alors des barrières entre notre santé et leur folie. Le rire peut être justement une barrière efficace. Notre société est en train de sortir progressivement et sûrement de cette peur. Néanmoins, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire dans le cadre du GRAP, il y a encore un long chemin à parcourir, difficile et tortueux, avant de banaliser la maladie mentale au même titre qu'une autre maladie grave. Il y a encore un long chemin avant de pouvoir bien la comprendre. Il y a encore un long chemin avant de savoir bien l'interpréter, jetant ainsi une lumière nouvelle sur sa signification et sur la signification de ce qui est, pour la majorité des bien portants, la normalité. En outre, même si nous avons passablement progressé dans les soins de la maladie mentale ces deux derniers siècles, et notamment ces 40 dernières années, le champ thérapeutique qu'il nous reste à découvrir dans ce domaine est encore immense. Au début du XIXe siècle, quand il fut question de créer le premier asile pour aliénés à Lausanne, sur le champ de l'air, sa mission fut double. Et le professeur Borja en parlait tout à l'heure. Une mission de santé publique dans le cadre d'une psychiatrie balbutiante et une mission de maintien de l'ordre pour faire face à diverses formes de comportements plus ou moins dérangeants, plus ou moins délinquants, qui perturbaient la société. Il ressort des documents de l'époque que cette deuxième mission était probablement la plus importante pour les autorités. Dans un article de Jean-Claude Vanière, je lis « La création de l'asile comble un trou dans le filet de contrôle social en permettant à l'autorité de surveiller plus efficacement, outre les délinquants considérés comme irresponsables de leurs actes, cette population flottante, errante, sans statut particulier, vue comme parasitaire et considérée comme moralement et socialement dangereuse. » Et plus loin, « Ainsi, l'existence du champ de l'air affine les modalités du contrôle social. Elle permet de nouvelles distinctions, de nouvelles modalités d'exclusion aux gestionnaires directs de petites collectivités, municipalités, juges de paix et préfets. Le médecin prend la place du pasteur comme garant de l'ordre public et le décodage des déviances sociales se modifie. D'infractions aux normes morales et religieuses, elles tendent à devenir désormais symptômes d'aliénation. » Mais Vanière précise aussi que la création de l'asile abaisse vraisemblablement le seuil de tolérance face à l'imprévisibilité des comportements. Cette remarque doit attirer notre attention car, dans ce domaine de la médecine, nous cheminons effectivement encore 2 siècles plus tard sur une voie étroite et mal tracée entre protection des patients et de leur entourage et exclusion sociale. En fait, ces réflexes de défense, ces réactions de la société sont d'une étonnante actualité, d'une troublante actualité et aussi d'une troublante ambivalence. En effet, durant les 2 derniers siècles, la société a souhaité être protégée contre une certaine forme de maladie mentale et de délinquance qui lui fait peur et ou qui la dérange. Elle a souhaité que la psychiatrie s'en occupe avec l'ambition de la guérison éventuelle, voire une fonction éducative, à l'écart de la société, derrière les murs de l'asile. Mais par ailleurs, la même société a critiqué la psychiatrie pour son aspect carcéral, pour ses méthodes autoritaires, parfois musclées, pour son utilisation de la contention, pour sa thérapeutique peu systématique, pour sa médication inefficace ou trop efficace, et j'en passe. Dans son ouvrage « Des maladies mentales » en 1838, Étienne Esquirol établit une liste des causes de la folie réunies dans un tableau portant pour titre « Des admissions relativement aux causes de la folie ». Nous trouvons citées des causes aussi variées que l'hérédité, l'onanisme, le libertinage et les excès en tout genre, les chagrins domestiques et d'amour, la jalousie, la dévotion exaltée, la lecture de romans, eh oui, la lecture de romans, la passion du jeu et les excès de veille et d'étude. Ainsi s'ajouteront aux soins de la maladie mentale notamment les raisons d'admission en institution psychiatrique suivantes: comportement délictueux, violence, incapacité de subvenir à ses besoins, immoralité sexuelle, alcoolisme ou toxicomanie. Et cela, sans que l'on puisse ordonner ces critères d'admission dans un ordre logique ou dans une évolution cohérente de la société. La société réagit en fonction de ses peurs, de ses leaders d'opinion, de ses modes, de ses habitudes de consommation. Dans ce relatif désordre, dans cette incohérence apparente, une tendance forte toutefois s'impose clairement. L'augmentation drastique des admissions volontaires. Regardons un peu les chiffres. Parmi les 1721 dossiers analysés à Seury par une équipe de chercheurs pour la période 1873 à 1949, 12 admissions volontaires ont été relevées, soit 0,7%. Entre 1950 et 1959, 38 cas d'admission volontaire sur 551 dossiers ont été relevés, soit 6,9%. Actuellement, ce pourcentage tourne autour de 50% pour les environ 3000 admissions par année dans les hôpitaux psychiatriques du canton. 50%. Cette importante progression des admissions volontaires s'explique grandement par les nouveaux médicaments mis progressivement au service de la psychiatrie depuis les années 50 et par le développement de la psychiatrie ambulatoire et intermédiaire. Mais il s'explique aussi par la nouvelle image que la psychiatrie actuelle s'est forgée, par son efficacité grandissante et reconnue, son fort engagement social et sa collaboration étroite avec la médecine somatique, notamment les médecins généralistes installés. On peut heureusement constater, sans aucun doute, que la maladie mentale fait moins peur. La psychiatrie n'est plus asilaire, elle n'est plus volontairement écartée de la cité. Elle y a pris pied, d'abord par ses psychiatres installés, puis par ses nombreux lieux de consultation au centre-ville. Enfin, elle aura l'occasion de franchir une nouvelle étape importante dans sa déstigmatisation si le nouvel hôpital psychiatrique prévu au centre-ville d'Yverdon peut être construit. Le peuple en décidera prochainement, puisque ce projet, approuvé à l'unanimité par le Grand Conseil vaudois au mois de mai 99, sera soumis prochainement au référendum financier obligatoire. Il n'en reste pas moins, à l'aube du 21e siècle, que 50% des internements en psychiatrie sont encore non volontaires. La société vaudoise aura donc à se remettre profondément en question dans le cadre de la révision de sa loi sur la santé publique, révision qui a pour but principal de renforcer et de préciser les droits des patients, notamment dans le domaine de la contention et du traitement forcé. Quel est le cadre juridique de cette réflexion ? Il faut d'abord rappeler que, dans un esprit finalement relativement assez proche de celui que je mentionnais auparavant et qui régnait il y a deux siècles, le Code civil a établi les règles de la privation de liberté à des fins d'assistance à la fin des années 70. Selon l'article 397A du Code civil, une personne peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit, d'alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d'abandon, l'assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. Dans le commentaire de Henri Deschenaux et Paul-Henri Steinauer, on peut lire: le placement ou le maintien doit avoir lieu dans un établissement approprié qui est à même de fournir à la personne en cause l'assistance personnelle dont elle a besoin. Pour qu'il y ait privation de liberté, ah, c'est gentil. Oui, effectivement, j'avais la gorge sèche. Merci, merci beaucoup. Je reprends. Pour qu'il y ait privation de liberté, il suffit que la personne ne puisse pas quitter l'établissement sans être autorisée. Point n'est besoin qu'il s'agisse d'un établissement fermé. En conséquence, si les hôpitaux psychiatriques ont été très souvent utilisés pour mettre en œuvre des mesures de privation de liberté à des fins d'assistance, notons que parmi les établissements appropriés, la loi n'interdit pas de prendre en considération les établissements pénitentiaires. En outre, depuis 1988, la jurisprudence du tribunal fédéral a posé le principe du droit du patient à être informé sur son traitement et de son droit de se déterminer en conséquence. C'est ce qu'on appelle le consentement éclairé du patient. Il en découle qu'aucun traitement ne peut être appliqué à un patient sans son consentement. Toutefois, une limitation à la liberté personnelle est exceptionnellement admissible si elle répond à un intérêt public, si elle respecte le principe de proportionnalité et si elle se fonde sur une base légale claire et précise. Le tribunal fédéral vient de le rappeler dans un arrêt d'avril 99. C'est justement à cette base légale que nous travaillons actuellement dans le canton de Vaud. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si l'hôpital psychiatrique doit encore être aujourd'hui un lieu d'enfermement. Et si la réponse est positive, dans quelles conditions et avec quels moyens pour y parvenir? La question se pose aussi de savoir ce que l'on doit faire pour le patient capable de discernement qui refuse tout soin. La société vaudoise imposera-t-elle le traitement forcé à certaines conditions, dans certaines circonstances? Face à la violence de certains comportements, face au danger de mort dans le cas où l'on renoncerait au traitement, ces questions sont loin d'être simples. Comment respecter la liberté personnelle dans ce genre de situation? Et puis, l'ambivalence de la société peut mener à des incohérences. J'en citerai deux qui me semblent majeures. Une première incohérence pourrait être de demander à la psychiatrie de maintenir à l'hôpital contre son gré, sans la soigner, je dis bien sans la soigner, une personne refusant catégoriquement tout soin ou ne nécessitant aucun soin psychiatrique. En effet, cela serait en contradiction flagrante avec la mission de soins aigus de ce genre d'établissement. Une deuxième incohérence pourrait être de demander à la psychiatrie, dans certaines circonstances, de soigner des patients contre leur gré, je dis bien contre leur gré, mais sans utiliser aucun moyen de contrainte. Le débat est lancé. C'est un débat difficile, orienté par la volonté de soigner, mais aussi la raison, la peur et l'éthique. Il est passionnant d'y participer activement. Il est indispensable d'en prendre le temps. À l'aube du XXIe siècle, je pense en effet qu'il est fort heureux de revisiter ainsi, sereinement et humblement, l'humanisme et le seuil de tolérance de notre société. Je vous remercie.
Vous avez bien eu raison d'accepter de participer à cette journée. Je vous remercie pour l'excellence de votre intervention. Maintenant, c'est au tour de M. Fanjala qui va nous parler de passion psychique, délinquant et code pénal.
Mesdames et messieurs, passion psychique, délinquant et code pénal.
Vaste et complexe sujet. On y décèle d'emblée au moins trois éléments différents. La souffrance des patients psychiques et avec elle l'intervention des psychiatres et des infirmiers. Les valeurs de la société qui permettent de définir la délinquance. Et enfin, la codification de ces valeurs en règles de droit et avec elles l'intervention de la justice comme représentant de la société. On comprend dès lors que, pour avoir une vue d'ensemble cohérente à ce propos, s'il n'est sans doute pas inutile de posséder quelques notions de droit et de justice, il faudrait en avoir en matière de psychiatrie et de criminologie, bien sûr, mais aussi de sociologie, d'histoire et de philosophie. Et puis, une connaissance de la réalité des conditions de vie des délinquants et de celle du personnel médical et infirmiers pénitentiaires serait aussi nécessaire. Mais comme toutes ces compétences sont impossibles à réunir, il faut avancer dans ce domaine avec modestie, en portant son attention sur ce que d'autres, au bénéfice d'un autre angle de vision, ont à dire. C'est pourquoi je suis honoré d'avoir été convié à participer à vos travaux et me réjouis d'écouter les nombreux intervenants. Le thème de ces journées n'est certes pas nouveau. Il suscite la réflexion depuis longtemps. En particulier, le congrès mis sur pied par Promente Sana en 1986 avait eu pour partie le même objet. Cependant, il présente à coup sûr un intérêt actuel, puisqu'en ce moment, ainsi que M. Toriel l'a dit, des réflexions diverses sont menées dans le canton de Vaud, mais aussi à Berne, en matière de santé publique, de psychiatrie légale, mais aussi de droit pénal. Dans le domaine du droit pénal, le Conseil fédéral vient en effet de publier son message concernant la modification du code pénal suisse. Cela étant, il m'est apparu intéressant de mettre en relation la situation actuelle avec quelques critiques relevées en 1986 et les propositions du Conseil fédéral, dont on ne sait cependant pas ce qu'elles deviendront après le passage devant les chambres fédérales. En tout arbitraire, comme seul un juge vaudois semble en être capable, j'ai décidé d'aborder deux thèmes, l'expertise psychiatrique et l'internement, qui sont l'expression juridique, d'une part, de la réalité vécue par Paul, le personnage que les organisateurs de ce colloque ont mis en exergue. L'expertise. Dans quelles circonstances une expertise est-elle ordonnée? Dans le droit actuel, une expertise doit être ordonnée par le juge dès qu'il a un doute sur la responsabilité du prévenu ou s'il y a lieu d'envisager une mesure de sûreté en raison de son état physique ou mental. Dans son projet, le Conseil fédéral maintient ce principe. Quelle est l'influence de l'expertise dans le processus décisionnel judiciaire? C'est une question qui, depuis longtemps, suscite de vastes débats juridiques et philosophiques. Selon la jurisprudence, l'expertise est un moyen de preuve parmi d'autres qui ne lie pas le juge. Le juge doit se faire une opinion personnelle sur les éléments relevés par l'expert. Cependant, la jurisprudence a posé comme principe que le juge ne peut s'en écarter sans énoncer les motifs qui le conduisent à ne pas la retenir, ce qui donne à ce moyen de preuve un poids évidemment important. Néanmoins, dans la pratique, il arrive fréquemment que sur telle conclusion, l'expert psychiatre ne soit pas suivi. Dans son projet, le Conseil fédéral n'envisage pas de changement à cet égard. Ainsi, à propos de l'examen critique auquel doit se livrer le juge, à propos de l'expertise, il porte cette appréciation sévère, je cite, bien que les moyens de vérification dont dispose le juge soient limités, cet examen revêt une importance pratique, car il n'est pas rare que les rapports d'expertise laissent manifestement à désirer. Fin de la citation. Je crois pouvoir dire que les juges vaudois ne partagent pas la virulence de cette critique. Au demeurant, le canton de Vaud peut faire valoir qu'il a empoigné ce problème, puisque le DUPA a créé l'unité d'expertise dirigée par le docteur Jacques Gasser, et que l'enseignement est, dans ce domaine particulier, en train d'être amélioré.
Au passage, j'aimerais relever que la justice vaudoise apprécie cette nouveauté institutionnelle qui améliore déjà considérablement la communication entre les intervenants au procès pénal condamnés à collaborer et qui va permettre de rendre à terme des décisions mieux documentées. Ouvrons une parenthèse pour dire que le psychiatre et le juriste doivent consentir à quelques efforts pour se comprendre. En schématisant quelque peu, on pourrait dire que du point de vue du juriste, le psychiatre a une vision de l'âme humaine qui est plutôt celle d'un aquarelliste, tandis que le juriste fonctionne plutôt en archiviste. Le premier voit tout en dégradé et le juriste a tendance à ne faire que des catégories et des classements. Fermons cette parenthèse. Quelle est la mission de l'expert? Selon le droit en vigueur, l'expert a trois missions. Dire, selon la nomenclature maintenant largement dépassée du code pénal, si le prévenu souffre d'un trouble mental. Deuxièmement, se déterminer sur la responsabilité du prévenu, dont on rappelle qu'elle est présumée. Et il doit donc dire si, en raison de son trouble mental, le prévenu, au moment d'agir, ne possédait pas ou partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. À cet égard, M. Gasser vous en dira sans doute plus demain à ce sujet. La troisième mission de l'expert, c'est se prononcer sur l'opportunité et les modalités d'une mesure, ce qui implique de se prononcer sur le risque de récidive, voire sur la dangerosité du prévenu. En 1986, le docteur Miéville niait que le psychiatre puisse prétendre au statut d'expert, car selon lui, en substance, ces constatations ne peuvent être tenues pour objectives et scientifiques. En particulier, il contestait que l'expert puisse se prononcer sur la responsabilité et la dangerosité d'un délinquant. En revanche, dans ce même colloque, un ancien procureur rappelait que le code pénal fondait la responsabilité pénale sur une méthode scientifique dite biopsychologique. Il y avait donc là une divergence sur le rôle de l'expert et le sens, la nature de son intervention. Si le projet du Conseil fédéral est adopté, l'expert devra, premièrement, dire si le patient souffre d'un trouble mental grave, seul un tel trouble pouvant amener le juge à retenir une responsabilité diminuée. Deuxièmement, indiquer si ce trouble est de nature à altérer chez l'auteur sa conscience de l'illicéité de l'acte qu'il a commis ou qu'il entend commettre, ou sa détermination d'après cette appréciation, étant précisé que ce sera au juge, en revanche, de tirer les conclusions juridiques de ces constatations et de statuer sur la responsabilité du prévenu. Troisièmement, se prononcer sur le caractère adéquat d'une mesure, sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement de l'auteur, sur la vraisemblance qu'il commette d'éventuelles autres infractions, sur la nature de celle-ci et sur les possibilités concrètes de faire exécuter la mesure. On constate donc, par rapport à la situation actuelle, que l'expert ne serait plus amené à évaluer la responsabilité de l'auteur, ce qui va dans le sens des critiques formulées notamment par le docteur Miéville, mais devrait en revanche toujours se pencher sur les éléments de fait permettant au juge d'évaluer cette responsabilité pénale. Au titre de tâches nouvelles, en revanche, l'expert devrait évaluer la gravité du trouble mental, ce qui pourrait soulever, j'imagine, quelques difficultés. Et en outre, ce qui me paraît intéressant parce que de nature à éviter des suggestions d'experts et des décisions judiciaires comportant parfois quelque hypocrisie ou inadéquation, l'expert devrait dire les possibilités concrètes d'exécuter la mesure qu'il suggère. Quelle est la formation de l'expert? Le tribunal fédéral a indiqué, donc dans le droit, s'agissant du droit actuel, que cette formation doit être médicale. Quant au projet, le Conseil fédéral précise qu'en principe, l'expert sera un psychiatre. On verra dès lors si la pratique, voire la jurisprudence, confie la tâche d'expert à d'autres spécialistes que les médecins. Ainsi, en résumé, on peut dire que globalement, le rôle de l'expert resterait celui d'une aide à la collectivité et aux délinquants par l'intermédiaire de la justice, cette aide consistant à trouver les solutions les plus adéquates en respectant au mieux les intérêts divergents et en présence qui sont, faut-il le rappeler, les principes de liberté personnelle et d'égalité pour les délinquants et ceux de sécurité pour la société en général et du droit de vivre en paix pour les victimes hypothétiques en particulier. Ainsi, dans une acception globale, le rôle de l'expert psychiatre demeurerait thérapeutique et préventif, même si l'expertise n'est pas, à strictement parler, une mesure thérapeutique individuelle. Passons aux mesures et à l'internement en particulier, mais auparavant, je procéderai à quelques remarques générales sur la conception des peines et mesures dans le droit positif et dans l'éventuel droit futur. Dans le droit actuel, les peines du code pénal répondent à un triple but, la punition, l'amendement du coupable et la prévention générale. Quant aux mesures de sûreté, elles sont fondées principalement sur un motif sécuritaire, par la prévention de la réitération d'actes délictueux, voire par la mise hors d'état de nuire, soit par l'enfermement, et subsidiairement sur un motif thérapeutique. Le tribunal fédéral, par sa jurisprudence, a en outre accordé une importance croissante à la réinsertion sociale du délinquant, aussi bien en matière de peine que de mesures. Le projet du Conseil fédéral est soutenu par deux idées principales et en partie contradictoires. D'une part, fondée sur un courant qui s'est particulièrement manifesté dès la fin des années 60, le but central du droit pénal devrait être l'intégration de l'auteur dans la société. D'autre part, dans les années 90, à la suite de procès relatifs à des abus sexuels, à des homicides commis dans des situations particulièrement révoltantes, et en regard de la crainte du crime organisé, d'autres voix se sont fait entendre pour que le droit pénal garantisse à la société une plus grande sécurité. Le projet tente d'associer ces deux concepts, et ce n'est pas une sinécure. Ainsi, le Conseil fédéral explique pour quel motif il n'est plus convaincu du triple objectif de la détention, donc punition, amendement du coupable et prévention générale. En tout cas, en ce qui concerne les peines privatives de liberté de courte durée, qui devraient quasiment disparaître du paysage pénal pour être remplacées par une peine pécuniaire ou par un travail d'intérêt général. Cet aspect de la réforme sera sans doute très discuté, car en définitive, il pose la question de savoir comment réagit la société face aux actes qu'elle considère inacceptables. Cela n'est cependant pas au premier chef l'objet de la discussion de ce jour, et je ne m'aventurerai pas plus loin sur ce terrain. De manière générale, je cite, « Le projet part du principe que la sécurité est assurée avant tout par l'amendement des coupables, sans perdre de vue que dans certains cas, des limites étroites sont posées aux efforts de resocialisation. » Fin de la citation. Autrement dit, en principe, selon le Conseil fédéral, il faut que l'auteur s'amende et, si ce n'est pas possible, prendre des mesures contraignantes ou très contraignantes à son encontre. Vous aurez compris que la difficulté réside dans les moyens mis à favoriser l'amendement, mais aussi dans l'évaluation du dit amendement et dans l'appréciation du risque de réitération et de la pression. J'aimerais évoquer l'internement au sens de l'article 43, chiffre 1, alinéa 2 du Code pénal et son correspondant, ou plutôt ses correspondants dans le nouveau droit. S'agissant des autres mesures, telles le traitement thérapeutique institutionnel, le traitement de la dépendance à l'alcool, aux stupéfiants ou aux médicaments, les mesures applicables aux jeunes adultes et le traitement ambulatoire, je me borne à les évoquer ici pour mémoire en précisant que le nouveau droit introduit quelques règles nouvelles qui ne bouleversent cependant pas le système actuel. Je citerai néanmoins 5 éléments nouveaux. Premièrement, les traitements devraient avoir pour but, je cite, « un impact thérapeutique dynamique et non pas la simple administration statique conservatoire de soins ». Fin de la citation. Deuxièmement, la pharmacodépendance est prise en considération. Troisièmement, le passage d'une mesure à l'autre sera aisément possible. Quatrièmement, plusieurs mesures pourront être ordonnées simultanément. Et cinquièmement, l'internement des délinquants d'habitude est abandonné. Il faut encore relever deux exigences nouvelles en matière institutionnelle. Une mesure ne pourra être ordonnée que si un établissement approprié est à disposition. Deuxièmement, les établissements thérapeutiques appropriés devront être séparés des établissements d'exécution des peines. Ces deux exigences répondent aux critiques formulées depuis longtemps en matière de prise en charge des délinquants souffrant de troubles psychiques. Dans son message, le Conseil fédéral reprend à son compte une affirmation de la commission d'experts qui a planché sur ce projet, selon laquelle il serait grand temps que les autorités cantonales en charge de l'exécution des peines et de la santé publique veillent à combler les lacunes existant en matière d'établissement d'exécution des mesures et de sections fermées dans les établissements pénitentiaires ou dans les établissements psychiatriques. C'est sans doute vrai, mais c'est vite dit compte tenu d'une part du nombre apparemment croissant de délinquants souffrant de troubles psychiques et d'autre part des réalités financières et politiques qui ne favorisent guère la création d'établissements spécialisés. Nous savons d'ailleurs les efforts faits dans le canton de Vaud depuis quelques années, dont on espère qu'ils seront prochainement et partiellement couronnés de succès. Quoi qu'il en soit, il y a là matière à réflexion du côté de l'administration et des autorités politiques. Revenons à l'internement. Qu'en est-il selon les normes en vigueur? L'internement d'un délinquant, en vertu de cet article 43, chiffre 1, alinéa 2 du Code pénal, suppose que du fait de son état mental, l'intéressé compromet gravement la sécurité publique et que cette mesure soit nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Dans son projet, le Conseil fédéral propose quelques nouveautés. Ainsi, les délinquants dangereux et violents feront l'objet de deux formes possibles de mesures. Tout d'abord, le délinquant dangereux souffrant d'un trouble mental grave pourra se voir ordonner un traitement dans un établissement psychiatrique fermé ou dans un établissement fermé d'exécution de mesures ou enfin une section fermée d'un établissement pénitentiaire. Comme toute mesure, ce traitement devra évidemment prendre fin dès que les conditions ne sont plus remplies. Le passage à une autre mesure sera, comme je l'ai déjà dit, facilité. Et la libération conditionnelle pourra aussi être envisagée. Le traitement en milieu institutionnel fermé devra être réexaminé au plus tard tous les 5 ans. Deuxième possibilité de mesure pour les délinquants dangereux, ils pourront faire l'objet d'une nouvelle forme d'internement de sécurité. Cette mesure pourra être ordonnée après l'exécution d'une longue peine privative de liberté et durera aussi longtemps qu'il y aura lieu de craindre que l'auteur ne commette de nouveaux actes de violence dès sa remise en liberté. Un tel internement devra être réexaminé chaque année. Si le délinquant présentant un tel danger est atteint d'une maladie mentale, il fera d'abord l'objet du traitement institutionnel en milieu fermé que j'ai décrit précédemment, puis, cas échéant, l'objet de cette mesure d'internement. Conclusion. J'en aurai deux. D'abord, j'aimerais parler de Paul. Je ne le connais pas, ni son dossier. C'est dès lors délicat de faire part d'appréciation personnelle sur une situation peut-être, je l'ignore, réelle et actuelle. Mais finalement, je vais tenter de ne pas me dérober et essayer en particulier de répondre aux questions figurant dans le dépliant annonçant la présente manifestation, en me plaçant du point de vue, je dirais, du juge, soit en me plaçant du point de vue du juge qui applique donc le droit tel qu'il est aujourd'hui. Préliminairement, je retiens l'hypothèse que l'autorité judiciaire a correctement instruit et jugé la question de la dangerosité de Paul. Il va en effet de soi que si Paul ne présente pas un risque concret de réitération d'actes graves, la justice aurait commis une erreur judiciaire en ordonnant son internement. Passons aux questions. Selon quels critères la responsabilité de Paul a été jugée illimitée ? Je crois vous avoir donné quelques indications sur les compétences respectives du juge et du psychiatre en ce domaine, et le docteur Gasser évoquera plus précisément demain la notion même de responsabilité. Je vous en ai donné une brève définition tout à l'heure, qui a donc, sans doute, dans ce cas-là, fait que le tribunal compétent aura retenu une responsabilité diminuée chez Paul. La sanction visait-elle la santé de Paul ou la protection de la société ? La prévention de nouveaux actes punissables était sans doute l'objectif principal, soit la protection de la société, donc effectivement l'objectif principal de la mesure était sans doute un objectif sécuritaire. Cependant, cet objectif est poursuivi à travers le traitement de Paul. Le condamner à suivre un traitement psychiatrique forcé, n'était-ce pas lui barrer l'accès à une démarche thérapeutique volontaire ? Imposer un traitement, c'était effectivement et vraisemblablement rendre le processus thérapeutique plus difficile. Mais on peut imaginer qu'au fil du traitement, le patient puisse voir un intérêt à son traitement et que celui-ci de forcé devienne consenti, sinon volontaire. Au surplus, s'agissant d'éviter de faire courir un danger majeur à la société, quelle autre possibilité aurait-elle pu, dans le contexte actuel, être ordonnée ? La prison offre-t-elle de bonnes conditions de traitement par rapport à la gravité de certaines maladies psychiatriques ? D'autres que moi vont s'exprimer de manière plus compétente sur ce sujet. Je peux simplement dire que les conditions de traitement psychiatrique y sont sans doute difficiles, mais dépendent sans doute des compétences et moyens des prestataires de soins en milieu carcéral. Ces conditions seront en tout cas d'autant plus favorables que la collectivité investit et investira dans l'engagement et la formation de personnel, dans la constitution d'établissements ou de sections spécialisées, et qu'elle considérera que le délinquant psychique est un patient autant, voire plus qu'il n'est l'auteur d'un délit. À cet égard, la création du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire indépendant du département des institutions est sans doute une mesure qui va dans ce sens. Enfin, si pour répondre à une question implicite du dépliant présentant ses journées, enfin, si Paul avait été jugé responsable de ses actes, il serait libre, ou du moins il aurait purgé la peine concernant l'infraction qu'il a commise et qui est décrite. Mais si Paul a fait l'objet d'un internement, c'est justement que le risque de récidive a été jugé élevé, et dès lors on peut se demander si aujourd'hui, dans l'hypothèse posée par les organisateurs, il ne serait pas en détention pour un autre acte punissable, une autre victime souffrant, elle, d'un traumatisme. Deuxième conclusion. Que penser de la nouvelle du Conseil fédéral ? J'ai tenté quelques comparaison sur le terrain du droit, en tentant de rester le plus objectif possible, même si je ne crois guère à l'objectivité de l'exposé juridique. Il n'empêche que, à propos du projet de révision du Code pénal, j'aimerais porter une appréciation personnelle sur les mesures. J'adhère à l'idée de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, notamment par le traitement médical. Je me réjouis aussi qu'à l'avenir, des troubles psychiques puisse être soigné dans une perspective plus dynamique. L'idée de faire correspondre les sanctions et mesures à la particularité de chaque situation est aussi séduisante. Il en va de même de celle de protéger d'éventuelles futures victimes, dont il ne faut d'ailleurs pas oublier, je le souligne encore au passage, qu'elles aussi souffrent de troubles psychiques du fait des actes pénaux subis. Je m'interroge cependant et tout d'abord sur les conséquences que pourrait avoir une interprétation très sécuritaire des règles nouvelles sur les délinquants souffrant de troubles psychiques. Si la limite du risque acceptable pour la société est placée à un faible niveau, ce projet pourrait permettre l'internement des délinquants souffrant de troubles psychiques pendant une durée qui nous paraîtrait aujourd'hui déraisonnable. Je crains aussi une tendance à psychiatriser à outrance la délinquance qui me paraît poser quelques problèmes. Ce qui suscite aussi mes craintes, c'est la possible inadéquation des modifications envisagées avec la réalité économique et politique. Que l'on pense aux difficultés rencontrées par quelques projets passés et présents dans notre canton, je pense là à Bochu 2000 ou à la passerelle, dont on espère que le projet sera bientôt sous toit. Pour adapter le système médico-pénitentiaire suisse à la volonté du législateur, la collectivité publique devra investir considérablement dans la création d'institutions et dans l'engagement et la formation de personnel médico-social et administratif spécialisé. En ce qui concerne la justice, les règles du jeu prévues en matière de peine et de mesure sont si complexes et si évolutives qu'il faudra sans doute former et nommer des juges spécialisés en matière d'exécution des peines. Mais peut-être, sur le plan financier, mes craintes sont-elles infondées en raison des économies substantielles que le concept nouveau du projet du Conseil fédéral permettra en raison de la suppression des peines de courte durée, pour autant que ce concept soit adopté, ce qui ne me paraît pas encore acquis. Mais quoi qu'il en soit, il s'agira pour le juge de continuer d'assumer sa tâche avec rigueur et humanité, soit de comprendre la situation concrète de chaque personne comparaissant devant lui, d'y appliquer les règles de droit pertinentes et de prendre une décision en mesurant les conséquences de celle-ci pour le délinquant, la victime et la société. Je vous remercie de votre attention.
Un peu d'avance sur le programme. Je propose de demander à M. Toriel de venir jusqu'ici et de laisser la parole au public. Si vous avez des questions, ce serait le moment de les poser maintenant. Si en votre nom, c'est de intervenants pour leur exposer. Est-ce qu'il y a des questions?
Quelqu'un qui collabore avec les GRAP et un médecin qui travaille dans les institutions psychiatriques. Je remercie les deux conférenciers pour leur exposé, que j'ai trouvé très stimulant et très intéressant pour la réflexion. Je trouve important effectivement de discuter autour de ce cas, fictif ou pas, j'en sais rien non plus. Par rapport à ce que vous avez dit, monsieur le président du tribunal, moi ce qui me frappe là, c'est ces cas qui sont à la limite. Parce qu'en même temps, il y a ce cas, tel qu'il est décrit dans la brochure, où on a l'impression qu'il s'est passé une fois une chose, il y a une mesure qui a été prise, et puis ça s'est mal emmanché. Alors pourquoi ça s'est mal emmanché, on ne sait pas très bien, mais on voit ces situations qui passent d'une mesure de sûreté avec traitement médical à un internement. Donc il y a un certain nombre de rouages qui sont grippés, et je dois dire que c'est une situation qui me préoccupe beaucoup, parce que j'ai moi-même dans la cohorte de traitement d'unité dont je m'occupe, un cas qui est en train de suivre cette direction-là. C'est-à-dire quelqu'un qui est maintenant soigné, qui se montre absolument réfractaire à tous les moyens de soins, qui se rend carrément insupportable dans les milieux soignants. Et puis, on est obligé de dire au juge que malgré plusieurs mois d'efforts, on n'arrive pas plus loin. Donc, on voit assez bien vers où on se dirige. Ça, c'est un aspect du problème. Puis il y a d'autres aspects. Alors moi, j'ai fait récemment l'expertise d'une situation où j'étais sidéré par le fait qu'un délinquant sexuel multirécidiviste pouvait être aussi multirécidiviste que ça, aussi gravement multirécidiviste, et encore en liberté, alors que d'autres cas, pour moins que ça, sont détention préventive. Donc, ça situe bien tout l'aspect relatif des situations et tous les pièges possibles à diverses étapes des procédures. Et moi, ce qui me frappe, c'est à quel point c'est difficile de comprendre, alors du point de vue du point de vue médical, pourquoi à certains moments les choses se grippent, et dans le cas dont je m'occupe maintenant, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On fait tout ce qu'on peut sur le plan médical, Il y a une collaboration qui est très étroite avec les services d'exécution des peines, on a des colloques, on a tout ce qu'il faut. Puis il se trouve que le patient met les pieds contre le mur. Hein, bon. Et alors on va où on va. Puis dans d'autres cas, où manifestement, alors dans d'autres cas, je me demandais, du point de vue juridique, qu'est-ce qui avait pu se passer pour que des gens aussi apparemment dangereux pour nous soient encore, enfin, soient pas dans cette. Donc nous, on est en train de voir à quel point c'est difficile pour nous de voir ce qui se passe du point de vue médical, parce que là, effectivement, on est dans une situation dramatique qui nous préoccupe beaucoup, c'est-à-dire tous mes collègues et moi-même qui nous occupons de cette situation, parce qu'on sent qu'on va inéluctablement vers un internement, si ça continue comme ça. Puis on ne sait pas quoi faire, parce qu'on est coincé. Puis d'autres fois, on a l'impression que c'est la justice qui est coincée. Voilà, c'est à la fois une remarque et une question.
Je vous remercie de votre question. En fait, je répondrai peut-être en deux temps. S'agissant de la mesure qui paraît trop sévère par rapport à la réalité de la situation, je dirais qu'il existe, sur le plan judiciaire et sur le plan de l'exécution des peines, alors des moyens de revoir la situation, moyennant évidemment constitution d'un dossier, etc. Mais je crois que là, sur le plan de l'exécution des peines, il y a des possibilités d'adapter la mesure à la situation concrète. Encore qu'effectivement, c'est une des faiblesses du droit actuel, c'est d'être assez rigide et de ne pas permettre le passage extrêmement aisément d'une mesure à l'autre ou la combinaison de différentes mesures. Alors ça, c'est vrai que, par exemple, le projet là paraît être une avancée tout à fait intéressante. Dans l'autre situation où une mesure pas assez grave ou une sanction ou une mesure peut-être trop laxiste aurait été prise, eh bien évidemment il existe des possibilités de recours, notamment pour le ministère public qui est là pour faire respecter la loi et protéger la société. Les autorités judiciaires n'ont pas pris la décision qui vous paraissait adéquate, qui vous aurait paru adéquate, c'est l'appréciation qu'a fait cette autorité qui reste indépendante, qui est peut-être fondée sur des éléments de fait qui vous sont ignorés ou des déclarations faites à l'audience par l'auteur, par son entourage, par les victimes qui font que peut-être que cette personne a eu peut-être un avocat qui a aussi présenté les choses de façon telle que la situation en elle-même soit rassurante. Et vous avez peut-être d'autres éléments que n'avait pas la justice qui fait que vous avez une autre vision des choses. Mais je crois que cette question-là, elle touche le problème peut-être le plus délicat s'agissant des délinquants qui souffrent de troubles psychiques. C'est la coordination et la combinaison des connaissances. Et alors, c'est vrai qu'actuellement, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante. Je crois qu'il faut... On est en train de l'améliorer grandement, me semble-t-il, mais c'est vrai que peut-être les juristes en général manquent de connaissances et d'informations en matière psychiatrie. L'inverse me semble parfois aussi vrai. Dans ce domaine, il faut aussi voir que toute la procédure, tout le procès pénal est en quelque sorte saucissonné en différentes compétences, en différents moments de compétences. C'est le cas sur le plan judiciaire, où on a d'abord un juge d'instruction qui mène l'enquête et qui peut prendre déjà certaines mesures, notamment ordonner une expertise. Puis nous avons le tribunal qui prend en main le dossier, qui décide de la sanction, éventuellement des autorités de recours, tribunal cantonal ou tribunal fédéral. Il y a déjà là, je dirais, un cloisonnement. Et puis sur le plan, après la mesure, il y a encore d'autres intervenants. Et il y a d'ailleurs déjà des intervenants pendant peut-être la détention préventive, puis pendant le procès pénal, des intervenants médicaux et administratifs. Et c'est vrai que peut-être que la collaboration de l'ensemble de ces intervenants et collaboration également avec la personne concernée n'est peut-être pas tout à fait ce qu'elle devrait être.
Monsieur Dreyel.
Bon, le sujet n'est pas tellement de mon domaine, mais ce que je voudrais rajouter à ce que Monsieur le juge Franjala a bien voulu répondre, c'est que il me semble que la solution de problématiques telles que le docteur Grasset vient de l'exprimer pourra s'élaborer autour d'un dialogue de plus en plus approfondi et confiant entre la justice et la médecine, et notamment entre la psychiatrie et la justice, puisque c'est certainement, notamment dans le domaine de la psychiatrie, qu'il y aura beaucoup d'expertise à faire et beaucoup de prises de position éclairantes pour la justice à préparer. Et je me réjouis, et j'ai plaisir à le dire devant monsieur le juge Franjala, dont j'avais entendu le nom, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de connaître, que effectivement, il a tout à l'heure dans son exposé expliqué qu'il y avait un dialogue qui s'est établi, qu'il y a un certain nombre de démarches qui ont été faites au sein de la psychiatrie universitaire pour mieux s'expliquer avec la justice. Il y a un effort du côté de la justice pour essayer de comprendre et aussi s'expliquer avec les milieux psychiatriques. Je pense que là, il y a un chemin à faire, chemin qui a été maintenant ébauché et qui permettra, non pas toute erreur judiciaire, parce que ça, je crois que probablement, il y aura toujours des appréciations momentanées. Il y aura aussi, donc on a parlé des juges qui peuvent se tromper, mais le psychiatre aussi peut avoir minimisé la gravité des choses au moment où il les a exprimées en tant qu'expert. Donc il y a une responsabilité partagée, mais ce qu'on peut dire, c'est que si cette responsabilité partagée, elle peut se faire dans un climat de plus grande confiance, dans un climat de plus grande coopération ou de complémentarité, à ce moment-là, et donc ce que nous sommes en train de vivre dans ce canton, alors je pense qu'on peut avoir un bon espoir que la justice sera plus finement réfléchir à des situations aussi complexes que celles que vous avez évoquées.
Je me permettrai d'ajouter un complément. Paul, en effet, est une histoire vraie, mais que j'ai simplifiée pour l'utilisation que nous voulons faire ici, en résumant de manière très drastique cette expérience. C'est vrai qu'il n'y a pas eu qu'une histoire de pistolet à eau, mais il me semblait aussi, d'après les témoignages de Paul et de sa famille, que les autres incidents n'étaient pas de nature certainement plus grave que le pistolet à eau, mais pas de la nature à faire peur à tout le monde. C'était mon opinion. Et plus tard, dans le cours de ces deux journées, la maman de Paul s'exprimera à travers un témoignage aussi. Et aussi, si j'ai choisi cette situation, c'est parce qu'elle illustre la nécessité pour le GRAP de militer pour cette célèbre passerelle dont vous avez parlé ce matin et qu'on attend, il y a un instant, et qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Cette passerelle sera un lieu pour nous qui permettra à des patients psychiques d'avoir un traitement adapté et surtout une resocialisation. C'est sur la resocialisation qu'il faut travailler avec ces jeunes, à notre avis. Et un traitement psychiatrique et un travail de réseau est, à notre avis, indispensable, et la passerelle permettra cela. Je dois vous dire aussi, le but de ce congrès, c'est de faire avancer cette idée et d'apporter notre pierre en tant que GRAP à la construction de cet établissement qui manque dans notre structure, dans nos structures institutionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur.
Merci beaucoup. Jacques Mélan, avocat. Monsieur le juge cantonal Alfonjala nous a rappelé la définition de la responsabilité telle qu'elle est contenue dans le code pénal. On a vu aussi, en l'entendant, que cette définition ne subirait pas de modifications essentielles dans le droit futur, s'il est adopté tel quel. Alors, ma première question, ce serait de savoir si, du côté de la psychiatrie, cette définition, qui est quand même relativement ancienne, est, compte tenu de l'évolution des connaissances dans ce domaine, encore considérée comme adéquate, comme collant à la réalité. Ça, ce serait le premier point de ma question. Monsieur Toriel nous a dit tout à l'heure qu'on constatait une augmentation du nombre de délinquants souffrant de troubles mentaux. Alors, la question que je me pose, et c'est le second point, est-ce que véritablement il y a modification ou est-ce que simplement on comprend différemment, là encore en fonction de l'évolution des connaissances, les rapports entre délinquance et troubles mentaux? Et puis, troisième point qui s'adresse peut-être plus particulièrement à M. le juge cantonal Fonjala, si j'ai bien compris, donc désormais la question de la responsabilité est considérée comme une question purement juridique qui relève du juge et non plus de l'expert psychiatre. Mais sur quoi le juge va-t-il se fonder pour dire il y a trouble mental, certes, l'expert l'a constaté, plus ou moins grave, mais selon quels critères le juge va-t-il dire, sans plus pouvoir bénéficier cette fois de l'appui de l'expert, il y a diminution de la responsabilité. Voilà les trois points que je souhaitais voir quelque peu développés.
Peut-être en tout cas sur un des points, je peux vous répondre, c'est concernant l'augmentation des situations, des cas psychiatriques dans les établissements pénitentiaires. Je crois que de tout temps, il y a eu, enfin je n'ai pas, je crois que c'était plutôt des propos de M. Fonjala, mais de tout temps, je pense qu'il y a eu des cas psychiatriques. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que, je ne dirais même pas le problème, le fait aujourd'hui, c'est que nous savons aujourd'hui dépister ces situations, donc on les met en évidence. À partir de ce moment-là, se pose une question pour la justice, comment elle agit par rapport à cette mise en évidence. Et quelles conséquences elle doit en tirer aussi sur l'évolution de la peine. On a bien vu, M. le juge Fonjala le disait tout à l'heure, on peut, à partir d'une appréciation différente, faire évoluer une peine. Donc, je crois qu'au fur et à mesure, justement, qu'il y a cette perception plus précise de la maladie mentale, cette compréhension et aussi une thérapeutique qui évolue et qui s'adapte, on peut imaginer des solutions qu'on n'imaginait pas il y a encore 10 ans ou il y a encore 20 ans. Et c'est pour ça que je me réjouis de ce dialogue qu'il y a autour entre médecins, entre psychiatrie et le système judiciaire, parce que ce n'est que par ce dialogue-là qu'on peut transformer des principes, c'est-à-dire faire évoluer une peine en fonction de la perception, qu'on peut les transformer en réalité palpable, c'est-à-dire en mesures efficaces, acceptables pour la justice et qui sont applicables par la médecine. Et je pense que donc c'est une réflexion difficile, délicate, extrêmement passionnante, que nous avons devant nous, et elle ne peut se faire que dans la mesure où les partenaires ont confiance l'un envers l'autre, vont s'expliquer, vont se comprendre, vont comprendre le langage de l'autre et les concepts de l'autre, et travailler vraiment ensemble, la main dans la main. Ça, c'était ma réponse à votre question. Je ne sais pas si sur ce point-là, vous voulez...
Sur ce point-là, je n'ai rien à ajouter. Sur votre première question, maître, je ne vais évidemment pas y répondre à la place des psychiatres. Quant à la troisième, en réalité, j'ai un petit peu l'impression que que le système actuel de la responsabilité ne changera pas selon le rapport. Certes, on a posé clairement, on a dit plus clairement qu'actuellement, que c'est quand même en définitive le devoir du juge que de dire ce qu'il en est de la responsabilité, mais les critères seront bien toujours examinés sur les indications données par les psychiatres. Et là, là il n'y a pas de changement fondamental, c'est un peu du cosmétique.
Oui, monsieur.
Oui, Yves Burnon, avocat. J'aimerais revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Grasset, au fond, interpeller le juge Fonjala tout en même temps. Il me paraît que, au fond, quels que soient les termes de la loi, et quels que soient ces termes à l'avenir, lorsqu'il s'agit d'apprécier l'aspect psychique d'une délinquance, le juge est complètement dépendant du psychiatre et qu'il le restera. C'est vrai au niveau de l'appréciation de la responsabilité, on voit très très rarement des jugements ne pas suivre les psychiatres s'agissant de l'appréciation de la responsabilité. C'est d'ailleurs pour ça que les avocats se battent tellement au niveau de l'expertise, parce qu'ils savent que c'est ça qui déterminera finalement le résultat. Et puis c'est encore plus vrai au niveau de la mesure. Moi je n'ai jamais vu de tribunal qui ne suivent pas l'avis de l'expert psychiatre lorsque celui-ci recommande un internement ou qu'au contraire il commande qu'il n'y ait pas d'internement. Donc pour répondre au docteur Grasset, et comme avocat je ne suis pas la justice, donc je ne peux pas donner l'impression que je rejette la responsabilité de ce qui se passe sur le psychiatre, mais il est clair que s'agissant du cas qu'il a donné du multirécidiviste sexuel qui n'avait pas subi de mesure d'internement, s'il n'en a pas subi, c'est parce qu'aucun des psychiatres qui l'ont examiné jusque-là dans le cadre d'expertise n'ont recommandé l'internement. Le tribunal fait ce que dit le psychiatre dans ce cas-là. Ça m'intéresserait d'ailleurs d'avoir sur ce point l'avis du juge Fonjala. Est-ce qu'il est d'accord avec moi ?
Il est en grande partie d'accord avec M. le bâtonnier. Non, s'agissant de la responsabilité, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est extrêmement rare qu'aujourd'hui, on voit un tribunal ne pas suivre l'expert psychiatre sur le terrain de la responsabilité. Sur le terrain des mesures, je ne serais peut-être pas aussi catégorique. Évidemment, il n'existe pas de statistiques dans ce domaine pour savoir dans quelle mesure les experts psychiatres sont suivis par les juges. Néanmoins, il me semble qu'il arrive, en tout cas parfois, que les tribunaux, pour différents motifs, et notamment celui de l'appréciation de la dangerosité et du risque de récidive, ne suivent pas exactement ce que dit le psychiatre, mais c'est vrai que le psychiatre a dans l'appréciation de ce qu'il faut dire des sanctions a un poids très important.
Oui, moi je suis très heureux du tour que prend la discussion. Je vous remercie de ce rebondissement parce que c'est là que me semble effectivement le centre du problème. Vous avez dit quelque chose qui me paraît tout à fait fondamental, hein, c'est qu'à certains moments de la procédure ou de l'évolution, il y a des compétences dans le domaine juridique ou dans le domaine médical qui sont potentiellement déterminantes. C'est à un moment donné de l'évolution. Et ce qui me paraît effectivement difficile, c'est de gérer les choses au fil d'évolution. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a effaré, c'est que dans les expertises précédentes que j'ai pu lire, on ait sous-estimé la dangerosité potentielle, tout en pouvant bien comprendre qu'on la sous-estime. J'aurais peut-être sous-estimé moi-même aussi. Donc, le cas que je citais tout à l'heure, qui nous préoccupe beaucoup, tant les personnes du service d'exécution des peines qui travaillent avec nous que nous-mêmes ici dans l'institution, c'est qu'on ne sait pas très bien comment évaluer la dangerosité potentielle d'une personne qui a été mise sur la base d'expertise qu'on a fait nous-mêmes, disons, au bénéfice d'une mesure de sûreté, de traitement. Cette mesure de sûreté n'aboutit pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Et c'est extrêmement difficile à gérer, tant du point de vue médical que du point de vue juridique. Parce qu'il y a toutes les... une prospective que nous ne maîtrisons pas. C'est souvent difficile de savoir ce que la dangerosité est devenue au bout d'un certain temps, ou ce qu'elle va devenir. Et ça, je crois qu'il faut aussi bien qu'on soit conscient des problèmes de limite des compétences et du fait qu'effectivement, comme vous le disiez très justement, à certains moments, elles sont exacerbées par la procédure sans que ce soit forcément pertinent.
Mais je pense qu'effectivement, la question de la dangerosité, le risque de récidive, c'est véritablement le nœud du problème. Et comme il s'agit d'évaluer ce qui pourrait se produire à l'avenir, c'est sûr que l'homme étant ce qu'il est, nous devons procéder chacun à notre niveau à une appréciation avec tous les risques que cela comporte, les risques d'erreur que cela comporte. Et c'est pour cela qu'il faut être prudent, mais la prudence ne doit pas non plus nous amener à refuser de prendre nos responsabilités chacun à notre niveau. Et alors, c'est là où on est vraiment dans une situation délicate qui a des conséquences évidemment très importantes pour la personne qui est l'objet de ces réflexions.
Oui, monsieur le juge Frangela, vous avez dit donc tout à l'heure par rapport au cas de Paul, la situation de Paul qui a été mise en exergue, vous avez dit, il a été... la raison de la décision, c'est d'abord de la protection de la société, et puis ensuite, quand même, ce patient psychique délinquant sera soigné. Il y a un service de psychiatrie pénitentiaire, etc. Moi, j'ai quand même alors quelques doutes là-dessus, puis je crois qu'il faudrait quand même rester sérieux là-dessus lorsqu'il s'agit d'internement de longue durée et qu'un délinquant gravement schizophrène aboutit pendant des années et des années à Bochum. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les soins psychiatriques à Bochum? Moi, je croyais savoir que selon la théorie de la santé publique, les délinquants devaient avoir le même droit aux soins que les personnes qui sont à l'extérieur de la société. Alors, est-ce qu'on peut réellement soigner un patient psychique gravement schizophrène qui est enfermé dans une cellule le 99% du temps, qui est menacé par les autres détenus parce qu'il est considéré comme fou et puis qu'un fou n'a pas sa place dans une prison selon les autres détenus. Je crois qu'il faut quand même rester sérieux et puis savoir que quand vous condamnez un patient psychique délinquant à être interné et soigné longuement dans un endroit comme Bochum, vous le condamnez en fait à ne pas être soigné. Il faut dire les choses comme elles sont actuellement. Alors, à la limite, on peut vous poser la question, quand vous appliquez la loi, est-ce que vous ne devriez pas dire le code pénal parle d'un établissement approprié, il n'existe pas d'établissement approprié pour cette situation, donc je ne condamne pas à ça. Je suis placé face à une mission impossible.
Alors, vous posez le problème de l'établissement approprié, notamment, vous posez différents problèmes, différentes questions. C'est vrai qu'actuellement, on est en déficit. Non, on n'a pas l'établissement approprié, ou pas vraiment, en tout cas, non, on ne veut dire pas, décrit par l'article 43 du Code pénal. C'est vrai, et c'est comme ça. Maintenant, sur la possibilité d'ordonner des soins en milieu pénitentiaire, je ne suis pas compétent, ou du moins, y a-t-il des gens dans la salle plus compétents que moi, et je dis cela en regardant le docteur Gravier, pour répondre cas échéant à cette question. Je pense que, en tout cas, ce qui m'apparaît c'est que la situation a été grandement améliorée depuis quelques années. Et si ce que vous dites, ce que vous avez dit au sujet de l'impossibilité des soins était sans doute totalement vrai il y a quelques décennies, ça l'est sans doute moins aujourd'hui. Mais de nouveau là, je suis un peu mal à l'aise pour vous répondre parce que il se trouve qu'on retombe dans cette question de séparation des compétences, où le juge jusqu'au moment où il du jugement où la décision de principe est prise, et puis ensuite la collectivité a confié le travail de gérer l'exécution des peines et des mesures à l'administration. Et alors c'est vrai que le juge ne se préoccupe pas de l'exécution de la mesure proprement dite. Mais c'est peut-être une critique qu'on peut faire justement d'un défaut de continuité des compétences. Oui.
Je vous remercie. La qualité de ce débat montre l'importance du sujet et qu'on est vraiment au cœur du débat. Je vous propose une pause d'ici, si vous êtes bien d'accord, de revenir dans la salle à 10h30 pour nous permettre de suivre le programme. Vous pouvez, en face, vous avez la cafétéria de l'hôpital qui nous offre le café. Maintenant la parole.
Je remercie infiniment Monsieur Bruno Gravier et Madame Madeleine Pont de m'avoir invité à participer à vos travaux. J'en suis très honorée. Je suis ravie d'être dans cette belle ville et très intéressée de participer à un débat où se confrontent différentes approches sur un sujet dont les enjeux me paraissent tout à fait immenses. Alors, mon propos est de vous parler de l'objectif sécuritaire de la prison, objectif premier de la prison, de vous en parler dans son dispositif et son fonctionnement au niveau des relations entre surveillants et détenus. En resituant cet objectif sécuritaire en préalable dans une évolution, je voudrais prendre la précaution de mettre en garde mes auditeurs contre l'idée que ce que je vais pouvoir décrire puisse avoir un quelconque rapport avec la réalité carcérale suisse. Donc, je pense que l'évolution qu'on peut constater par rapport à la sécurité s'inscrit dans une tendance double et contradictoire. Bon, pourquoi ? On peut constater d'abord un déploiement depuis, disons, 4 décennies de ce qu'on peut appeler des droits créances, comme le droit à la santé, le droit à la culture, à l'information, à l'enseignement dans les prisons, avec des modalités d'accès qui veulent de plus en plus se rapprocher des modalités d'accès du droit commun. Bon, c'est vrai pour la dernière réforme concernant les unités de soins en prison qui ont été rattachés aux hôpitaux, et ça a été vrai un peu antérieurement pour la loi Veil, qui instaure dans les prisons des unités de soins psychiatriques indépendants et rattachées à la sectorisation psychiatrique. D'un autre côté, et plus récemment, on peut dater ça d'une 20aine d'années, on constate que les politiques pénales et le nouveau code pénal sont de plus en plus répressifs pour nombre de délits. On voit un poids croissant des mesures de sûreté et la diminution des libertés conditionnelles qui concourent à allonger la durée des séjours en prison et à rendre beaucoup plus difficile la gestion des prisons, le contrôle de la population pénale et le maintien de l'ordre en prison. Notamment parce que, parallèlement, on s'évade très peu des prisons françaises et il y a une sorte de contradiction entre le maintien de l'ordre interne et le maintien de l'ordre externe, c'est-à-dire entre les évasions et les émeutes. D'une certaine façon, pour résumer grossièrement, on peut dire qu'il faut choisir entre l'émeute et l'évasion. Parce que parallèlement à ces politiques pénales plus répressives, les politiques pénitentiaires sont de plus en plus sécuritaires. Bon, l'ensemble des prisons françaises, en tout cas celles qu'on a observées et depuis ça continue, quelle que soit leur catégorie, ont fait l'objet de deux travaux tendant à accroître la sécurité, aussi bien la sécurité périmétrique que la sécurité interne. C'est ainsi que chaque ouverture nouvelle de droit s'accompagne de mesures de sécurité nouvelles, en vidant pour partie ces mesures nouvelles ou ces droits nouveaux de leur substance. Par exemple, le droit de téléphoner en centrale s'accompagne d'écoute téléphonique, ou bien encore la mise en place de parloirs libres s'accompagne de fouilles à corps en fin de parloir. Et il faut constater, par exemple, dans la centrale que j'ai étudiée, que les incidents les plus nombreux étaient occasionnés précisément par les fouilles à corps en fin de parloir et donnaient lieu à des punitions de mitard. Donc, je verrai dans cette évolution une contradiction de plus en plus aiguë. Et c'est sur donc cet aspect sécuritaire que je voudrais me pencher à partir du dispositif sécuritaire et de ses effets dans les relations sociales en prison. Mon propos étant de dire que le dispositif sécuritaire est un dispositif guerrier et que ceci n'est pas une simple métaphore. Bon, alors, donc, l'objectif premier explicite et implicite, ou implicite d'ailleurs, de tout gestionnaire de prison, c'est d'assurer la sécurité périmétrique et de prévenir les émeutes. Et pourquoi invoquer la notion de guerre sociale ? Parce qu'on n'est pas dans une situation de droit contractuel supposant un accord de volonté. L'enfermement procède d'un acte de violence. Et je cite Clausewitz qui dit « La guerre est un acte de violence destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté. La violence physique est donc le moyen. La fin est d'imposer notre volonté à l'ennemi. Et le désarmement est, par définition, l'objectif proprement dit des opérations de guerre. » Donc, neutraliser les délinquants, les maintenir au quotidien désarmés est la tâche essentielle du personnel de surveillance des prisons. Selon ce que j'ai pu observer, je dirais que le dispositif sécuritaire est un dispositif guerrier, défensif et limité. Bien que ce soit un dispositif guerrier limité,